Merci encore à Pierre Lory pour cette invitation, à toute l'association des Amis de Stella et Henri Corbin pour l'organisation de ces journées d'études auxquelles je commence effectivement à être un habitué, dont je commence à être un habitué et j'en suis très, très honoré. Donc nous allons passer là un petit peu de l'autre côté des travaux d'Henri Corbin, c'est-à-dire non plus donc sur ces échanges intellectuels et le contexte de sa pensée et de son travail, mais sur les auteurs, sur certains des auteurs qui lui ont été chers et auxquels il a consacré donc de nombreuses recherches pionnières. Donc je me concentrerai vraiment sur le thème qui a été donné à cette journée d'études, hein, la seconde naissance, en vous parlant donc de la mort comme renaissance et comme réveil spirituel dans la philosophie chiite du XIe-XVIIe siècle. XIe siècle de l'Égypte, XVIIe siècle de l'ère commune. La mort comme renaissance et réveil spirituel est un thème central, majeur, de la vision gnostique du monde et de l'existence qui a été analysée par Henri-Charles Puech comme un système de pensée transhistorique. Et en tant que tel, ce thème plonge ses racines dans la plus haute antiquité. Le gnosticisme, comme attitude spirituelle et comme système de pensée, a infusé profondément la pensée des philosophes et des théologiens chiites de l'Iran safavide, donc en particulier dans ce XIe siècle de l'Égypte, XVIIe siècle de l'ère commune, donc à l'aube de l'époque moderne, philosophes et théologiens chers à Henri Corbin et redécouverts par ses travaux. L'éloge de la mort résonne dans leurs œuvres comme un véritable leitmotiv, autorisé par une vénérable tradition rassemblant les anciens sages grecs, les prophètes et les imams du chiisme, mais aussi des soufis et des poètes persans. Le thème de la mort comme seconde naissance est ainsi un trait saillant de ce que Henri Corbin a justement qualifié de renaissance philosophique en Iran safavide. Ce thème apparaît d'abord chez Mir Damad, mort en 1040-1631, qui était qualifié ou surnommé le troisième maître, Al-Mu'allam al-Thalith, après Aristote et Al-Farabi, et qui était le premier maître de philosophie de cette période. Le thème est repris par l'un de ses élèves, qui est reconnu aujourd'hui pour le plus grand philosophe de son temps, Molla Sadra Shirazi, mort en 1045-1636. Et enfin, l'on doit à un autre ancien élève de Mir Damad, plus modeste, Qutbeddin Ashkevari, qui est mort vers 1090-1679, qui était un compilateur et un commentateur plutôt qu'un philosophe systématique, d'avoir reconstruit la tradition ancestrale ou la Sophia Perennis de ce thème jusqu'à ses illustres aînés. Ce thème de la mort comme renaissance et réveil spirituel a des implications éthiques, la prescription d'un certain mode de vie et d'action congruant à une certaine conception du bonheur, le salut et du malheur, la ruine. Il repose sur une gnoséologie ou une théorie de la connaissance transformatrice et salvatrice, donc la gnose à proprement parler, et il relève de l'eschatologie, puisqu'il porte sur les fins dernières de l'existence, des fins qu'il tend paradoxalement à réintégrer dans cette vie. Donc dans cette communication, je tâcherai de montrer comment ce thème fut décliné par les philosophes chiites de l'Iran safavide en faisant entendre la polyphonie de leurs textes. C'est pourquoi ma communication consistera en fait principalement en une lecture de textes que je ne pourrai donc pas vous afficher, mais que je pourrai vous communiquer par mail ultérieurement, et qui, à mon sens, le plus souvent, parlent d'eux-mêmes. Quant au pourquoi d'une telle appropriation thématique, d'un motif gnostique ancestral, je suggérerai à ce sujet quelques hypothèses seulement en conclusion. Tout d'abord, deux genres de vie et deux types de mort. Le thème de la mort comme renaissance est l'occasion chez nos philosophes, bien sûr, d'une réinterprétation radicale des notions de vie et de mort. Ils distinguent toujours de manière plus ou moins explicite deux genres de vie et deux types de mort. La vie naturelle ou organique est assimilée à un sommeil ou à une mort de l'âme, et elle n'est vie qu'au sens métaphorique. La vie véritable est la vie purement spirituelle. La mort biologique est bien la mort au sens littéral, exotérique, mais la mort véritable au sens ésotérique, spirituel, c'est la mort volontaire. Celle-ci, la mort volontaire, n'est aucunement un suicide, bien sûr, ou une mort naturelle volontairement provoquée. Mais c'est un renoncement spirituel aux attaches mondaines dans le cours même de l'existence terrestre, un détachement radical des besoins, des désirs et des plaisirs du corps. Cette rupture avec la vie naturelle, au cours de celle-ci, est le premier acte de la vie spirituelle, d'où l'idée de naissance. Il répond à la première partie du mot d'ordre énoncé par Socrate dans le Théétète de Platon, je cite, « Ce qu'il faut, c'est fuir d'ici là-bas le plus vite possible et nous rendre semblables au divin autant qu'il est en nous. » Mot d'ordre dont la seconde partie, surtout l'assimilation au divin, a été diffusée en philosophie islamique. Mais ici, c'est la première partie, hein, « Fuir d'ici là-bas le plus vite possible » qui sera au centre de ce thème. Selon cette conception, la mort est en réalité première sur la vie, qu'elle précède et conditionne, et ceci en deux sens. D'abord, l'homme est mort avant de vivre, la seule vie organique étant assimilée à une mort, et la mort biologique n'étant pas la fin, mais le début de la vie véritable. Ensuite, la mort est la cause finale, le télos de la vie naturelle, parce qu'elle est le début de la vie spirituelle. Ainsi, on peut dire que pour ces auteurs, l'homme est un être pour la mort, mais en un sens tout différent de l'expression chez Heidegger, être pour la mort, selon eux, c'est être pour la vie véritable, pour la vie spirituelle. Dans son Histoire des sages depuis Adam, le Mahboub al-Quloub, Qutbeddin Ashkevari fait d'emblée de l'aspiration à la mort un trait essentiel de la sagesse, hikmah, la sagesse éternelle, la sagesse universelle, dont les prophètes et les philosophes sont les représentants. Donc je cite un passage de sa définition de la sagesse. En troisième lieu, dit-il, la sagesse inspire le désir du voyage de ce monde périssant vers le monde subsistant. La mort est douce et facile pour les gnostiques, al-urafa, ayant suivi la voie droite du salut et vérifié qu'ils rencontreraient leur Seigneur. C'est pourquoi ils aspirent à la mort, veulent atteindre la demeure de la félicité et quitter la demeure de la calamité et de l'avilissement, comme le déclara un gnostique « Tuez-moi, tuez-moi, ô fidèles amis, car mon meurtre recèle une vie dans une vie. J'ai compris que ma mort résidait dans la vie et ma subsistance dans mon départ de celle-ci. » Donc il s'agit là de deux vers de Jalal ad-Din Maulana Rumi, célèbre poète persan mystique du 7e, 13e siècle. Mais le premier vers, que nous allons réentendre bientôt, reprend l'ouverture d'une fameuse qasida du martyr mystique de l'islam, Mansour al-Hallaj, exécuté en 309-902, et auquel, vous le savez, Louis Massignon a consacré une œuvre volumineuse. Le mot d'ordre de la mort volontaire réside dans la formule « meurs par la volonté, tu vivras par la nature », formule fréquemment attribuée à Platon. Mir Damad la commente ainsi, j'ouvre une citation, « Cela signifie qu'avant la mort naturelle, il faut rompre l'attache des relations formelles ou sensibles, s'échapper des gouffres du Sijjin, qui est la couche inférieure de l'enfer, du Sijjin le plus bas, s'extirper du niveau de l'animalité pour rejoindre le plus haut rang de l'ange et s'asseoir en témoin sur un créneau du trône. » De même, dans la Sainte Révélation, le Coran, là où le Tout-Puissant dit, au sujet de l'ordre donné par le prophète d'Israël d'immoler une génisse, « Ce doit être une génisse rousse, d'un roux franc, plaisant à regarder », verset 2,69. « Il se peut, dit Mir Damad, que la génisse soit une métaphore de la substance de l'âme rationnelle, et que la parole de Dieu, ce doit être une génisse non avilie par le labour de la terre et l'arrosage du sol, sans défaut ni stigmate », verset 2,71, exprime l'intégrité de la nature originelle à l'égard des impuretés des choses corporelles et des défauts des choses matérielles. C'est lui, Dieu, qui sait. Et Mir Damad de citer, sans le nommer, le même vers d'Al-Hallaj, « Tuez-moi, tuez-moi, ô fidèles amis, car mon meurtre recèle une vie dans une vie. » Alors, il faut noter ce rapprochement de la raison socratique et de la passion halladjienne, de l'impératif philosophique du départ pour le monde intelligible et de la quête mystique de la surexistence après l'anéantissement, thème d'origine hétérogène. Ce rapprochement est caractéristique de la synthèse entre philosophie hellénistique et mystique soufie développée par les philosophes chiites de l'Iran safavide. La mort volontaire est aussi implicitement prescrite par un hadith prophétique. « Mourez avant de mourir »« Mutu qabla anta mutu » que nous entendrons plus loin dans une citation de Molla Sadra, et on le trouve aussi dans une maxime attribuée à l'imam Ali, fréquemment cité par nos auteurs, surtout Ashkevari, sortez vos cœurs de cette vie avant que vos corps n'en soient sortis. Car en elle, en cette vie, vous vous êtes instruits, mais c'est pour une autre vie que vous avez été créés. » Dans son épître sur le monde imaginal, le Alam al-Mithal, épître intitulé Fanus al-Khayal, la lanterne de l'imagination ou la lanterne magique, Qutbuddin Ashkevari associe à ces traditions un vers persan anonyme, peut-être de son cru d'ailleurs. « Il te sera donné de vivre une seconde vie si tu parviens à mourir avant de mourir. » qu'il commente en mobilisant une spéculation d'origine soufie, puisque c'est une distinction que, enfin, dont j'ai retrouvé la trace chez Abdallah al-Ansari al-Harawi, soufi du 5e, 11e siècle. Je cite « Car la vie, pour les chercheurs de vérité, est de trois sortes. La vie de la science, hayat al-ilm, qui est la vie du cœur en quête de vrai, le salut à l'égard de la mort de l'ignorance. La vie de la réunion, hayat al-jam'a, depuis la mort de la séparation, qui est le rassemblement des pensées, depuis la dispersion dans l'attachement aux choses évanescentes. Et la vie de l'existence, hayat al-wujud, qui est l'anéantissement du fidèle en Dieu, fana dar-haq, en persan, enfin, arabe persan, et sa surexistence en lui, al-baqa billah, en arabe. Quand le serviteur vit de cette sorte de vie, il ne craint plus la mort naturelle en vertu du verset 10.62 « Non, en vérité, nulle peur ne pèsera sur les amis de Dieu et ils ne seront pas attristés. » Alors paradoxalement, dans ces trois genres de vie, eh bien, aucune ne correspond à la vie naturelle, mais bien plutôt, ces trois genres de vie relèvent d'une forme de mort volontaire, de détachement, de rupture avec la vie naturelle. Donc on voit à quel point la vie, pour nos auteurs, est en opposition avec la vie au sens exotérique. Ashkevari remonte à la plus haute antiquité de ce thème dans son Histoire de la sagesse, en proposant une véritable anthologie de maximes sapientiales issues des plus anciennes gnomologies. Il n'invente rien, c'est un compilateur. Alors la plus ancienne occurrence en serait cette sentence d'Homère, cher poète, « Celui qui sait que la vie est asservie et que la mort est affranchie et absoute, celui-là préfère la mort à la vie. » Le commentaire d'Ashkevari confronte la sagesse grecque à l'enseignement des saints imams du chiisme en relevant un paradoxe. Je le cite, « Le sens de la formule est d'aspirer à la mort volontaire avant l'échéance de la mort naturelle, car la mort volontaire est une vie réelle et véritable. » Dans le livre saint, la tradition prophétique et les dires des gens de la famille de la révélation et de l'impeccabilité, Ahl Bayt al-Wahi wa al-Isma, c'est-à-dire les imams, le croyant est fréquemment exhorté à détester la vie d'ici-bas, à se détourner d'elle, à désirer ardemment la mort, à mépriser la demeure de l'éclat évanescent, à vénérer la demeure de la splendeur éternelle. Mais il est aussi rapporté que les imams condamnent la demande d'interruption de la vie et de perception de la mort. Dans leur prière, on trouve l'inclination à vivre longtemps et à retarder le trépas. Comment accorder ces deux propos? La voie de la conciliation est qu'il existe sur cette vie d'ici-bas deux points de vue. Selon le premier, l'homme est exhorté à haïr la vie d'ici-bas pour ce qu'elle est, vicissitude sur la terre de la nature ténébreuse, séjour dans la cité de la matière inférieure aux habitants iniques, citation du verset coranique 4.175. L'âme cultive l'antipathie à son égard et le désir ardent de la mort comme étant le chemin menant à la terre de la vie réelle, la voie rendant à la demeure de la splendeur véritable et divine. D'un autre point de vue, la vie d'ici-bas est le champ dont l'âme tire son viatique sur le chemin de son perfectionnement, le commerce dont l'intelligence profite sur la voie de la perfection. C'est d'elle que font provision les alliés de Dieu, Awliya Allah, c'est en elle que le parti du vrai, Hizb al-Haqq, se prépare à la rencontre de Dieu. De ce point de vue, la vie d'ici-bas existe en vue de la vie dans la demeure de permanence, expression coranique du verset 35-35. Aussi est-il recommandé d'y chercher un secours et d'y subsister longtemps. D'où les paroles de l'imam Ali, première citation, « Le reste de vie du croyant est inestimable, c'est avec lui que l'on saisit ce qui s'échappe et que l'on fait vivre ce qui meurt. » Seconde parole de l'imam Ali, « La vie d'ici-bas a été créée pour une autre et non pour elle-même. » Fin de citation. Puis c'est de Pythagore qu'Ashkevari rapporte cette maxime « Celui dont l'âme ne domine pas le corps, son corps est le tombeau de son âme. » Alors le thème du corps-tombeau, évoqué par Platon, dans le Gorgias, le Cratyle, le Phèdre, est probablement bien d'origine pythagoricienne. Commentaire de notre philosophe, « Quand l'âme ne domine pas le corps, soit les désirs corporels corrupteurs, ceci entraîne sa mort à la vie intellective, « al-hayat al-raklaniya », et quand l'âme meurt de son immixtion dans le monde de la nature, son corps devient son tombeau. » De Socrate est rapportée cette maxime, « Qui fait mourir son âme d'une mort naturelle, le corps est son tombeau. Qui fait mourir son âme d'une mort volontaire, la mort naturelle est pour son âme une vie éternelle. » Commentaire d'Ashkevari, « La félicité de l'âme intellective et angélique, al-nafs al-aqila al-malakutia, donc l'âme dont l'origine est le malakut, le monde angélique ou le monde intelligible, donc la félicité de l'âme intellective et angélique réside dans le dépouillement du corps, le rejet du monde sensible et le retour à son monde véritable. La mort volontaire est donc la perfection de la substance vivante et rationnelle, et la mort naturelle est l'achèvement de cette perfection. C'est pourquoi les anciens sages, enracinés dans la science, c'est une référence à un verset coranique, ont défini l'homme comme la substance vivante, rationnelle et mortelle. L'âme intellective, en accomplissant son perfectionnement, prend conscience de ce que le corps est son tombeau et l'enlisement dans le monde de la nature corporelle, sa mort. Ainsi, la mort naturelle est la renaissance, baf, de l'âme de son tombeau qu'est le corps, comme l'indique le hadith prophétique, « Qui meurt voit se lever sa résurrection. » Et la mort volontaire est sa vie réelle et véritable. Dans la noble révélation, le Coran, il y a des attestations textuelles du fait que le corps est le tombeau de l'âme. Ainsi, verset 35-22, « Dieu fait entendre qui il veut, alors que tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. » En résumé, les corps sont les tombeaux des âmes et les fosses sont les tombeaux des corps. La mort est la renaissance de l'âme du tombeau du corps. La résurrection corporelle, al-hashr, résurrection finale, est la renaissance des corps des tombeaux des fosses. Fin de citation. Donc on comprend que la mort naturelle n'est une renaissance ou une résurrection qu'à condition d'avoir été précédée par la mort volontaire. On comprend aussi que si la résurrection corporelle finale concerne a priori tous les défunts, la renaissance spirituelle lors de la mort naturelle ne concerne que l'élite des âmes intellectives parfaites, celle des prophètes, des imams et des sages. Attribué encore à Socrate, « Tu dois t'affliger de la vie et te réjouir de la mort, car nous vivons pour mourir et nous mourons pour vivre. » Là, lettre pour la mort. À ce sujet, ajoute Ashkevari, un disciple d'Aristote dit « L'âme noble refuse de s'accoupler à la basse condition. Elle voit sa mort dans sa vie et sa vie dans sa mort. » Ce qui nous rappelle Al-Hallaj. Et cette maxime est attribuée ailleurs à Aristote lui-même. Il faut sans doute, là encore, entendre qu'il s'agit de la mort naturelle, mais précédée de la mort volontaire. C'est ce que confirme d'ailleurs une maxime attribuée à Diogène le Cynique, qu'on peut être un peu plus étonné de trouver dans une anthologie gnostique. « Sache que tu es irrémédiablement mortel. Efforce-toi donc d'être vivant après ta mort pour que ton cadavre ne se double pas d'un second cadavre. » Commentaire d'Ashkevari. Cette parole du sage est confirmée par ce que dit la révélation de l'antériorité de la création de la mort sur la création de la vie. Verset 47.2, « Lui qui a créé la mort et la vie. » Donc la mort est mentionnée avant la vie, elle aurait donc été créée avant la vie. Poursuite du commentaire, « Car tant que l'âme est occupée à diriger le corps, qui est pour elle comme une tombe, ainsi que l'expriment les textes saints, tant qu'elle est captivée par les charmes de la vie évanescente, elle est comme un cadavre tombé à terre, incapable de voler et d'atteindre les plaisirs du paradis. Il convient donc que l'homme pare son âme des vertus jusqu'à rompre ses attaches avec le corps afin qu'elle devienne vivante et subsistante et qu'un second cadavre ne s'ajoute pas à son premier cadavre. » Donc, On rencontre là le thème du corps cadavre, connexe, fréquemment associé à celui du corps tombeau dans les sources les plus anciennes, que ce soit par exemple chez Philon d'Alexandrie, chez le stoïcien Épictète ou chez les hermétistes. Donc là encore une Sophia Perennis, reprise, récupérée par ces philosophes chiites de l'époque prémoderne. En cohérence avec cette idée, une dernière maxime est attribuée à Zénon le stoïcien. « Ne crains pas la mort du corps, mais crains la mort de l'âme. » On lui demanda « Pourquoi dis-tu cela alors que l'âme ne meurt pas ?» Il répondit « Quand l'âme rationnelle se déporte du domaine de la raison au domaine de la bête, même si sa substance est impérissable, elle meurt à la vie intellectuelle. » Ashkevari rapproche cette parole d'une parole de l'imam Ali « Le corps connaît six états, la santé, la maladie, la mort, la vie, le sommeil et la veille. » Il en est de même pour l'esprit, le savoir est sa vie, l'ignorance est sa mort, le doute est sa maladie, la certitude est sa santé, l'oubli est son sommeil, la mémoire est sa veille. Alors, comme l'a rappelé Ashkevari, la position de la philosophie et de l'ésotérisme, de la tradition chiite elle-même, à l'égard de la vie, est foncièrement ambivalente. En elle-même, cette vie est vaine, voire mauvaise. Mais comme lieu de préparation à la vie dernière, elle est utile et nécessaire. Paradoxalement, c'est donc parce qu'elle est le lieu et l'occasion de son propre rejet, de la rupture après l'attachement, c'est-à-dire de la mort volontaire, que la vie terrestre, immédiate, mérite d'être vécue. Il faudrait donc relire la formule de Socrate « Une vie sans examen, c'est-à-dire sans philosopher, ne vaut pas la peine d'être vécue » dans l'Apologie de Socrate de Platon, à la lumière de cette autre formule socratique « Les vrais philosophes s'exercent à mourir dans le Phédon ». Dans la perspective gnostique de nos auteurs, la vie d'ici-bas est essentiellement trompeuse, illusoire et traîtresse. Comme l'exprime un vers du poète arabe Ibn al-Rumi, à ne pas confondre avec Jalal ad-Din Rumi, le poète persan, « Quand un homme d'esprit examine cette vie, il découvre un ennemi sous l'habit d'un ami. » Ashkevari insiste. « Un aspect particulièrement malfaisant de cette vie, c'est la société des fils du temps, les contemporains. Ce pourquoi le détachement du monde passe d'abord par l'isolement ou la retraite volontaire, uzla. » Cet isolement possède un aspect extérieur, qui est le fait de se retirer dans sa maison, et une dimension intérieure, qui est le détachement de toute intention mondaine, afin de ne laisser les portes de sa forteresse intérieure ouvertes à aucune intention des fils du temps. L'ascèse sociale est indissociable d'une ascèse intérieure ou spirituelle. Mais plus encore que des autres, il s'agit de se libérer du « soi », Nafs en arabe, Khod en persan, de l'âme charnelle avec ses puissances concupiscibles et irascibles selon la tripartition platonicienne de l'âme. Selon un hadith prophétique bien connu, ton ennemi le plus acharné, c'est l'âme qui sied entre tes flancs. D'où la métaphore martiale de deux vers de Rumi cités par Ashkevari, briser les idoles pour l'homme comme c'est facile, mais voir l'âme comme une chose facile comme c'est stupide. Briser les lignes ennemies, c'est facile pour le lion, mais c'est briser le soi qui fait un vrai lion. Et un vers d'Ashkevari lui-même, « Les ennemis comme des renards dorment tapis dans ma maison, point de salut avec le soi, alors brise-le, sois un lion. » La gnose chiite rejoint ici l'attitude spirituelle des malamati, les adeptes du blâme, des mystiques qui cherchaient le rapprochement de Dieu par la marginalité sociale, voire l'exclusion volontaire, et la répression de l'ego. Et l'on voit que la mort volontaire ne peut être représentée que comme une mort violente. La mort comme réveil spirituel et dévoilement. C'est là un autre schème typique du gnosticisme. Le corps et la vie terrestre sont assimilés à un voile, la mort, par conséquent, est vue comme un dévoilement. Ashkevari file cette métaphore pour soutenir la résurrection mineure dans le monde imaginal, donc qui vous a été déjà présenté, ce monde intermédiaire entre le monde sensible et le monde purement intelligible. Donc résurrection mineure dans le monde imaginal, ainsi que ce qu'il appelle, Ashkevari, après Molla Sadra, qui en parlait, la corporification des actions et des croyances, Tajassoud al-Aqaid wal-A'mal, et la métamorphose des intériorités, Masr al-Bawatin. Selon cette doctrine, l'âme prend, après la mort, un corps spectral ou imaginal, un corps subtil, intermédiaire entre le corps matériel et l'immatérialité absolue. Un corps dont la forme animale ou angélique, éventuellement humaine, est produite par les œuvres, les pensées et les états qui ont été ceux de l'homme durant sa vie. Et c'est dans et par ce corps, donc que l'homme a formé lui-même en fait intérieurement dans sa vie, c'est dans et par ce corps que l'âme connaît son châtiment ou sa récompense durant l'interrègne ou l'isthme, le bazar, qui est l'espace-temps situé entre la mort naturelle et la grande résurrection finale et universelle. Comme le soulignent certains passages de l'épître d'Ashkevari sur le monde imaginal, il s'agit bien d'une justice rétributrice immanente et non de la sanction d'un juge transcendant. C'est l'âme qui porte en elle et qui nécessite son châtiment à travers ce corps spectral ou imaginal. Ashkevari n'en appuie pas moins cette doctrine par une référence coranique. Je le cite, « Il est connu que tu prendras dans l'isthme, le barzakh, une forme correspondant à chaque attribut qui a prédominé en toi dans cette vie. Il en est ainsi car l'âme est une tablette. Les connaissances, les actions et les mœurs sont les inscriptions et écritures produites sur cette tablette. Et le corps est la poussière recouvrant ces inscriptions. Le jour où cette poussière est balayée, de la mort, ces inscriptions se manifestent une à une, comme dans la parole du Très-Haut, verset 50-22. Certes, tu étais dans l'insouciance de cela, mais nous t'avons ôté ton voile, et aujourd'hui, ta vue est perçante. » Verset, je dirais, canonique chez les soufis et qui est à l'origine notamment de la notion de kashf, le dévoilement spirituel comme mode de connaissance supérieure. Dans cette conception, la relation avec le corps agit comme une oxydation qui recouvre la tablette de l'âme, l'obscurcit à elle-même durant la vie terrestre, en lui masquant la réalité de ses propres habitus et caractères acquis, en lui masquant surtout les conséquences de ses habitus et caractères acquis. La mort naturelle dévoile donc l'âme à elle-même, entraînant une reconnaissance de soi aussi douloureuse qu'inévitable. Ce topos est au cœur de vers persans ou arabes, volontiers caustiques, cités par Ashkevari. Un premier, « Quand la poussière se dissipera, tu verras si ta monture était un cheval ou un âne. » Donc on passe toute sa vie, et puis à la fin, on se rend compte si on était sur un cheval ou un âne. Deuxième vers, « Quand viendra le matin, tu verras clair comme le jour, de qui, toute la nuit noire, tu t'es épris d'amour. » C'est douloureux. Alors, commentaire d'Ashkevari, le matin dans ce vers désigne le matin du jour de la résurrection, qui est le temps du réveil et de l'avertissement. La nuit désigne les multiplicités et les déterminations sensibles sous le rapport de leur obscurité et de leur inexistence. Et s'éprendre d'amour est une métaphore des attachements aux séductions inférieures et ténébreuses de ce monde. Ainsi, l'obstacle à la claire vision n'est autre que le voile de la relation corporelle. Il disparaît donc avec la disparition de cette relation, et chacun perçoit alors ses actions bonnes et mauvaises qui ont été les siennes. Et c'est ce que confirme un hadith du prophète, « Le paradis est plus proche de chacun de vous que les cordons de ses sandales et de même l'enfer. » Donc le sens de ce hadith pour Ashkevari, c'est que le paradis et l'enfer sont actuellement en formation dans ou autour de notre âme, à travers ce corps spectral, imaginal, que nos œuvres et nos pensées constituent. Un autre vers de notre auteur introduit la métaphore périnatale que nous allons retrouver plus longuement après. « Au sein de cette vie, ne bois pas le lait frais, il deviendra amer quand tu en seras sevré. » La vie naturelle et terrestre est ainsi assimilée à un plaisir illusoire et addictif, la mort à un sevrage nécessaire mais douloureux. Qui renonce dès cette vie, par la mort volontaire, à cette jouissance puérile, s'épargne une telle épreuve et s'ouvre, comme nous le verrons, à la seconde naissance dans le monde intelligible, au-delà du monde imaginal. Ashkevari invoque aussi à ce sujet une fameuse sentence attribuée à l'imam Ali : les hommes dorment et quand ils meurent, ils se réveillent. Également attribuée au prophète Mohammed dans d'autres sources. Commentaire d'Ashkevari : le sens est que durant cette vie d'ici-bas, an-nash'a ad-dunyawiyya, du fait de l'immersion dans les corps et leur puissance, les hommes dorment, et qu'à leur mort, quand cesse l'immersion évoquée, ils se réveillent. Lorsque cet obstacle est levé, alors se produisent l'éveil et la conscience de nombreuses choses auparavant voilées. Ce que notre auteur rapproche d'un nouveau hadith du prophète, le sommeil est le frère de la mort. Parce qu'il est immersion, ça c'est le commentaire, parce qu'il est immersion dans la nature, le sommeil cause l'inattention aux réalités véritables, tout comme la mort naturelle pour le commun des mortels. En ce sens, la vie naturelle et corporelle est donc aussi bien un sommeil qu'une mort, et la mort volontaire aussi bien un réveil qu'une renaissance. La mort comme résurrection. La vie naturelle étant assimilée à une mort spirituelle, la mort naturelle et ou la mort volontaire, l'ambiguïté est fréquemment maintenue, est d'abord associée à une résurrection spirituelle, comme nous l'avons déjà entendu dans le commentaire d'une maxime socratique par Ashkevari. Le même Ashkevari reprend une définition du soufi Abdelrazak Rachani, du début du 8e, 14e siècle, auteur d'un lexique du vocabulaire soufi. La résurrection, qui est le fait d'être suscité pour une vie éternelle après la mort, est de trois sortes. La première, c'est être suscité après la mort naturelle pour une vie dans l'isme, le barzakh, supérieur ou inférieur, selon l'état qui était celui du défunt dans la vie de ce monde, ainsi que l'a dit le prophète, tout comme vous vivez, vous mourrez, tout comme vous mourrez, vous vivrez. C'est la résurrection mineure à laquelle fait allusion le hadith, qui meurt voit se lever sa résurrection. La deuxième, c'est être suscité après la mort volontaire pour la vie éternelle du cœur dans le monde de la sainteté, selon la parole « meurs par la volonté, tu vivras par la nature ». C'est la résurrection médiane à laquelle fait allusion la parole de Dieu, le verset 6-122, « celui qui était mort, que nous avons revivifié et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les hommes ». La troisième, c'est être suscité après l'extinction en Dieu, fanafillah, pour la vie véritable de la subsistance en Dieu, baqabillah. C'est la résurrection majeure à laquelle fait allusion le verset 79-34, lorsque viendra le plus grand cataclysme, Tamma al-Kubra. Alors on relève que la résurrection majeure correspond au troisième genre de vie mentionné plus haut, donc la subsistance en Dieu après l'anéantissement en Dieu. Ce que suggère Ashkevari, c'est que la résurrection mineure a lieu dans le monde imaginal, le alam al-mithal, la résurrection médiane dans le monde intelligible, et la résurrection majeure dans l'essence divine elle-même. La résurrection mineure imaginale concerne tous les hommes du commun. En revanche, la médiane et la majeure sont réservées à l'élite des philosophes parfaits, des gnostiques accomplis, des prophètes et des imams. Molla Sadra, on le sait, a fait de la résurrection l'enjeu essentiel de la connaissance spirituelle ou de la gnose, irfan, le but ultime de la vie et de la pensée philosophique, comme l'a montré Christian Jambé dans plusieurs ouvrages majeurs. C'est ce que nous montre un extrait de sa grande somme philosophique, Al-Hikma al-Muta'aliya fil Asfar al-Aqliya al-Arba'a, la sagesse suréminente dans les quatre voyages de l'intellect, cité par Ashkevari, à qui je dois la découverte de ce texte. Molla Sadra exprime là aussi une position ambivalente à l'égard de la vie naturelle et corporelle, mais une intention finale résolument gnostique. Je le cite. Le Créateur, suivant sa miséricorde accomplie et sa grâce parfaite, a fait de toutes les choses corporelles sensibles des images et des signes, des choses spirituelles intelligibles. Et il a fait des canaux d'essence, des marchepieds et des échelles par lesquelles l'homme peut s'élever jusqu'à la connaissance des choses intelligibles, cette connaissance qui est la fin ultime du coucher de l'âme dans la demeure des choses sensibles et de son lever sur l'horizon des choses matérielles. Et de même que les sensibles ont par essence besoin des intelligibles, pour ce que ceux-ci sont des sudations de la lumière des lumières et des ombres de ses clartés, L'âme a besoin du corps et de ses instruments pour connaître les choses corporelles sensibles en percevant ces choses par leur intermédiaire. Car pour la perception des choses spirituelles, l'âme se suffit à elle-même par son essence et sa substance, après s'être instruite par les canaux des sens au moyen du corps. Quand cela se produit, elle devient intellect et intellective en acte et se voit dispensée des sens et de l'attachement au corps. Efforce-toi donc, nous enjoint Molla Sadra, de rechercher la sagesse, la richesse éternelle au moyen de cet instrument avant l'extinction de la durée, l'expiration de la vie, la destruction de ce corps et l'annulation de son existence. Prends garde à ce que ton âme, après la séparation causée par la mort involontaire, ne demeure indigente dans le besoin d'un autre corps spectral pour se perfectionner et se parachever par son moyen. Car tu serais alors de ceux qui disent « Si seulement nous étions renvoyés sur terre, nous agirions pieusement autrement que nous agissions. » C'est une paraphrase de Coran 7, 53, et qui demeure dans les ismes jusqu'au jour de leur résurrection. Molla Sadra soutient ainsi que, et il passe de la thèse à l'exhortation, que les âmes parfaites séparées des corps par la mort volontaire sont dispensées de la résurrection mineure, de la résurrection dans des corps imaginaux, par la résurrection médiane ou majeure, de son point de vue, dans le monde intelligible. Et c'est à ce titre que la mort naturelle est dûment appelée une seconde naissance. La mort comme seconde naissance. La première apparition de ce thème dans la pensée islamique remonte bien plus loin que nos philosophes du XIe, XVIIe siècle, au Ikhwan al-Safa, IIIe, IXe siècle, une société de philosophes vraisemblablement proche des milieux chiites ismaéliens. Je cite ce texte, « Si le fœtus reste 9 mois dans l'utérus, c'est seulement pour parfaire sa constitution, parachever sa forme et pour qu'effusent sur lui les puissances des entités célestes. S'il était possible que cette constitution soit parfaite et cette forme achevée en un jour, il n'y passerait pas 2 jours. Tout homme intelligent sait bien que celui qui naît avec une constitution incomplète et une forme imparfaite ne bénéficie pas de cette vie et de ses bienfaits, ne peut pas jouir et profiter pleinement des plaisirs qui s'y trouvent, mais y demeure misérable et déprimé, comme les êtres impotents, paralysés, handicapés ou difformes. Il en va de même pour la dernière demeure, consécutive à la mort. L'homme ne passe dans cette vie que le temps nécessaire à l'accomplissement des états de son âme avec son corps, comme il est évoqué dans les livres de sciences naturelles et philosophiques, ou le temps nécessaire à perfectionner ses vertus par l'existence dans cette vie, comme il est évoqué dans les livres de prophétie. Quand l'âme se sépare du corps lors de la mort, laquelle est une seconde naissance, elle bénéficie de la vie dans la dernière demeure et il lui est possible de s'élever jusqu'au royaume des cieux, Malakut Samawat, comme l'a dit le Messie, celui qui n'est pas né 2 fois n'entrera pas dans le royaume des cieux. Man la yulad wiladatayn la yalijou Malakut Sama. On reconnaît bien sûr un écho de Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le symbole de la vie terrestre comme gestation permet à nos penseurs tout à la fois de dévaloriser la vie d'ici-bas et de la justifier dans la perspective téléologique de la vie dernière. Ce symbole et son autorité scripturaire, donc cette formule évangélique, sont particulièrement appréciés par nos penseurs chiites iraniens. D'abord Mir Damad, dans son Kitab al-Kabasat, de ses œuvres les plus illustres, qui donne la formule anonymée et augmentée. Je le cite, « Quand tu auras réalisé que les plaisirs intellectifs et les connaissances seigneuriales ne sont qu'un petit lot de vie réelle dans cette vie tarissable et périssable, et que celui qui parvient à percer le monde sensible devient un voyageur du monde intelligible, juge alors si la mort naturelle n'est pas semblable à une seconde naissance. » Une naissance à la vie réelle et au bonheur subsistant dans cette dernière création. Tant il est vrai que l'âme immatérielle est alors pure dans son essence, de tout mélange, de toute souillure, immaculée dans sa substance, de tout mal et de toute crasse. C'est pourquoi il fut dit « Naissez pour la mort et mourrez pour la vie, n'entrera pas au royaume des cieux celui qui n'est pas né 2 fois ». Formule légèrement modifiée « L'agnali jamalakut samawat man lam yulad » Marratein. De même, écrit-il, la mort volontaire est semblable à la première naissance. Dans cette vie inculte, une naissance à la vie intellective, immuable et perpétuelle. C'est pourquoi celui qui meurt ainsi ne souffre pas de la morsure du trépas, ne ressent pas les affres de la mort naturelle quand vient son heure, à son terme fixé et son échéance écrite, car alors la mort n'est pas contraire à l'état de la substance de l'âme. De là vient que le guide des sages, le divin Platon, déclara « Meurs par la volonté, tu vivras par la nature ». Dans une autre œuvre, « Jathawat Wamawakret », rédigée en persan, Mirdama développe encore cette métaphore. Les savants enracinés dans la science ont comparé, ou mieux dit, ont assimilé, le monde d'ici-bas au siège de l'utérus, l'âme rationnelle humaine à l'embryon, la naissance à la génération du sperme dans le siège de l'utérus, la durée de la vie dans cette création au séjour de l'embryon dans l'utérus, le corps au placenta, la mort à la naissance, l'espace dégagé de la vie subsistante et éternelle à l'espace de l'ici-bas. Et ils ont dit, tant que l'embryon, dans l'utérus de la mère, n'a pas reçu une nourriture bienfaisante et n'a pas parachevé sa complexion corporelle, il ne peut connaître la vie, la naissance et l'existence d'ici-bas. De même, tant que l'âme rationnelle, dans cette vie de placenta et cette existence intra-utérine, n'a pas reçu la nourriture bienfaisante des sciences et des connaissances, n'a pas accompli sa complexion intellectuelle équilibrée, elle ne peut saisir le ravissement de la vie véritable et de la jouissance éternelle. Molla Sadra, dans sa somme philosophique, donc la sagesse suréminente dans les quatre voyages de l'intellect, combine ce topos de la seconde naissance et celui du dévoilement en traitant à nouveau de la résurrection. Je le cite. « La résurrection est cachée sous les voiles des cieux et de la terre. Elle est dans ce monde comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Et ceci tant que l'âme humaine n'est pas née d'une seconde naissance, qu'elle n'est pas sortie du ventre de ce monde, que le placenta du corps n'a pas atteint l'espace dégagé de la vie dernière, du royaume des cieux et de la terre, comme l'a dit le Messie, n'entrera pas au royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois. » Cette seconde naissance est connue par les parfaits gnostiques à travers la mort volontaire et par les autres hommes à travers la mort naturelle. J'y reviendrai. Tant que le pèlerin spirituel se tient à l'extérieur des voiles des cieux et de la terre, la résurrection ne s'accomplit pas pour lui car elle se trouve à l'intérieur de ses voiles. Dieu ne se trouve que sous ses voiles. Et auprès de Dieu se trouve le mystère des cieux et de la terre, auprès de lui se trouve la science de l'heure, c'est-à-dire la grande résurrection. Quand le pèlerin spirituel, au cours de sa pérégrination, traverse les voiles, quand il se réjouit de sa présence, la présence de Dieu auprès de lui, le secret de la résurrection lui est divulgué et sa science devient concrète. Fin de citation. Alors on note la différence entre Molla Sadra et Mirdamad, parce que pour Mirdamad, eh bien c'est la mort volontaire est la première naissance. Et en fait, la naissance biologique n'est, du point de vue spirituel, pas une naissance du tout, alors que Molla Sadra, vient de nous dire que cette seconde naissance est connue par les parfaits gnostiques à travers la mort volontaire et par les autres hommes à travers la mort naturelle. L'interprétation de Molla Sadra implique une autre différence que nous retrouverons, qui est que pour lui, la résurrection ou la seconde naissance à la vie proprement spirituelle est possible dès cette vie à travers la philosophie véritable, c'est-à-dire la gnose. La même idée est encore développée par Molla Sadra d'un point de vue métaphysique dans un ouvrage intitulé « Mafatih el-Reib »,« Les clés de l'invisible ». Dieu dit « Non, j'en jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas » (versets 68, 38, 39) pour indiquer que ces actes se divisent en ce qui est accessible à la sensation et ce qui est inaccessible à la sensation, mais saisi par un autre mode de perception que les sens. Dieu indique ces deux catégories dans sa parole. La création et l'ordre ne lui appartiennent-ils point ? Verset 7, 54. Le monde de la création est le monde des choses sensibles. On l'appelle aussi monde du témoignage, shahada, monde du règne, mulk, monde des corps, monde d'en bas, qui sont des termes synonymes désignant la même réalité. Et on peut noter que Molla Sadra partage cette terminologie avec Mirdamad. Ensuite, Dieu a évoqué dans son noble livre le monde des corps de manière analytique et détaillée et le monde des esprits de manière synthétique. Il est évident que nul ne peut connaître les états du royaume divin, le Malakout, en tant que tel, tant qu'il ne s'est pas séparé du monde, du règne, Mulk, qu'il ne s'est pas libéré de la captivité de la nature, délivré des chaînes de la passion. La plupart des hommes sont entravés par les chaînes de leur corps, captifs des raies de leur dépendance, prisonniers des geôles de leurs appétits. Seul découvre les états du royaume divin, celui qui sort son esprit du ventre de ce monde d'en bas, par la naissance spirituelle, comme dit le Messie, n'entrera pas au royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois. Les âmes de la plupart des créatures sont confinées dans ces corps animaux, comme des fœtus dans les ventres de leur mère. Comme Dieu l'a dit, « Quand vous êtes encore dans les ventres de vos mères, ne faites point valoir vos personnes. » Verset 53-32. Quand un homme apte au bonheur de la vie dernière voit advenir le temps de la victoire, fatre ou de l'ouverture, indiqué dans sa parole « lorsque viennent le secours de Dieu et la victoire », verset 110-1, quand les armées sensorielles et les puissances psychiques qui l'empêchaient d'entrer dans la Kaaba du royaume divin lui obéissent et qu'il tient dans la main une des clés, et c'est Dieu qui possède les clés de l'invisible que lui seul connaît parfaitement, verset 6-59, alors l'homme peut lever par elle le verrou de la nature humaine, Nasutia, indiqué dans sa parole « Où ont-ils des verrous sur les cœurs ?» 47-24, qui sont les cœurs humains eux-mêmes posés comme des verrous sur la porte du royaume divin. Lors de cette ouverture, se dévoile à lui, je cite, extrait d'un hadith Qudsi, d'un hadith prononcé par Dieu et transmis par le prophète, lors de cette ouverture se dévoile à lui ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille jamais entendue, aucun cœur humain n'a jamais perçu. Fin de citation. Donc dans ce passage, la mort volontaire et la seconde naissance sont presque expressément synonymes d'autodéification, ta'allu, homoiosis, te'u, d'après la formule du Téhétet que j'ai citée au début. Et ce hadith Qudsi, vous l'aurez peut-être reconnu, est une adaptation presque à l'identique de l'épître de Paul aux Corinthiens 2.9, que je ne... pas besoin de citer, mais qui nous confirme que nous sommes bien dans un contexte de pensée où l'influence, ou du moins les échos du christianisme sont très présents. Enfin, Ashkevari attribue au premier imam une version augmentée de la formule évangélique en reprenant à son tour le topos de la gestation. Il est rapporté de la porte de la cité de la science, Ali, « La mort est une seconde naissance et nul n'entrera dans le royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois ». Donc là, c'est à Ali qu'est attribuée la formule évangélique. C'est comme s'il voulait dire que la mort est une seconde naissance pour l'esprit et que, tout comme l'embryon ne séjourne dans l'utérus que pour accomplir sa forme et sa constitution, l'homme intellectif, tout au long de sa vie naturelle ici-bas, sait que celle-ci n'a pour but et finalité que de parfaire les vertus, les mœurs, les caractères et les connaissances seigneuriales de son âme, afin qu'au moment de quitter le monde de la génération et de la corruption, elle puisse se reposer du séjour prolongé dans cette prison, se conformer aux anges spirituels, prendre son envol vers les sphères célestes et pénétrer l'étendue des cieux. Ainsi, pour tous nos philosophes, la mort est dite une seconde naissance, mais elle est plutôt la véritable naissance, comme entrée dans la vie véritable. Toutefois, cette naissance n'est possible qu'après une vie naturelle dont l'âme se détache par la mort volontaire, laquelle est considérée donc par Merdamat comme la vraie première naissance. Reste à savoir, pour les philosophes, si un accès réel au monde intelligible est possible par la mort volontaire avant la mort naturelle qui rendrait celle-ci d'une certaine manière dispensable, quoique inévitable. La mort volontaire suffit-elle sans la mort naturelle ? Ashkevari, dans son épître sur le monde imaginal, fait état d'une discussion implicite à ce sujet entre les philosophes gnostiques. Sohrawardi, le maître de l'école de l'illumination, le Sheikh al-Ishraq, dans son kitab Talwihat al-Lawhiya ou al-Ashiya, le livre des éclaircissements de la table et du trône, avait attribué, non sans ironie, la position suivante à un Aristote rencontré en rêve. Il existe bien une connexion intellective entre l'âme et l'intellect agent, comme entre les âmes elles-mêmes dans le monde d'en haut, mais les hommes parfaits ne connaîtront cette conjonction qu'après la séparation de cette vie et de ce monde. Ce qu'Ashkevari résume en une formule lapidaire, « quand tu mourras, tu sauras ». Mirdamad, qui réclamait pourtant pour lui-même des expériences d'extase et d'ascension spirituelle, l'affirme également. Tant que l'âme conserve l'attachement naturel avec le corps qu'elle dirige, la relation nécessaire avec le monde du temps et du lieu, le lien sensible avec le climat de la matière, quand bien même elle peut rompre cet attachement à volonté, en possédant l'habitus du dévêtement du corps, ses sensations et ses perceptions lui adviennent toujours de manière successive et consécutive. Elle ne peut embrasser ensemble le passé et l'avenir, le précédent et le suivant, que lorsqu'elle a migré d'un seul coup hors du monde sensible, s'est dépouillée des propriétés de l'être psychique, est devenue digne du nom d'intellect pur. Il en est ainsi car quand l'âme rationnelle humaine atteint le parachèvement de l'intellect acquis, accomplit la haute dignité de l'autodéification et de l'autosanctification, migre hors du climat des sens, rejette le monde de la matière qui n'est autre que la cité injuste évoquée dans la révélation « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes » verset 4,75, et quand elle se départit de l'attribut psychique, elle devient digne de porter le nom d'intellect et intègre les rangs du royaume intelligible supérieur. Ashkevari ajoute cette explication, après avoir cité Mirdamad, « Les préoccupations de l'âme sont semblables à un voile. Avant la séparation du fait de ses relations corporelles, des obstacles sensibles et imaginatifs, l'âme immatérielle est semblable à un être dont la vue du monde, de l'intellect, est voilée. Quand la préoccupation du corps et l'obstacle des sens sont entièrement supprimés, elle contemple le monde intelligible et les lumières immatérielles par une vision plus accomplie que celle de la vue sensible. » Le perfectionnement de l'âme par la philosophie est donc bien une préparation à la mort, et celle-ci apparaît toujours comme le dévoilement des plus hautes connaissances. Alors nous avons entendu Molla Sadra affirmer que la seconde naissance est connue par les parfaits gnostiques à travers la mort volontaire. En cohérence, il soutient une position plus optimiste que son ancien maître dans une épître pertinemment intitulée « Le réveil des dormants, Iqaz Na'imin ». Ce sera mon dernier extrait. Tant que l'homme est au niveau des animaux extérieurs, tant que sa vie est celle de l'ici-bas, il ne parvient pas à la vie spirituelle, obtenue par la mort volontaire aux exigences et aux plaisirs de ses puissances concupiscibles et irascibles, ainsi que l'a ordonné l'envoyé de Dieu, mourez avant de mourir. Dieu Très-Haut a qualifié cette première vie de divertissement futile, de jeu et de plaisir illusoire, pour ce qu'ils sont métaphoriques, sans réalité ni existence stable. Tant que l'homme n'est pas mort au désir des futilités de l'ici-bas, tant qu'il n'a pas atteint la vie bonne par la seconde naissance, il n'a aucun rang auprès de Dieu dans la seconde création. Donc la mort volontaire est à nouveau identifiée à la seconde naissance. Citation coranique, « La dernière demeure est vraiment la vie, s'il savait » verset 29-64. L'on rapporte de Jésus cette parole, « N'entrera pas au royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois ». Cette seconde naissance et cette vie spirituelle ne sont accessibles à l'homme qu'en suivant les manières révélées et les lois divines, en acquérant les sciences, les mœurs, les habitudes, les bienfaits, et en égalisant les rangs des puissances et des instruments qui sont les armées de l'âme humaine pour atteindre l'équilibre. Et on comprend qu'elles sont accessibles dès cette vie, mais permanentes après la mort naturelle. Je passe la dernière partie de cet extrait, dans laquelle Molla Sadra enjoint finalement les philosophes et les gnostiques à se faire les éveilleurs des hommes qui dorment, donc pour les conduire à cette seconde naissance. Alors en conclusion, on peut bien sûr se demander pourquoi ce thème et cette vision gnostique sont si développés, si fréquents, si lancinants dans les œuvres de penseurs chiites iraniens, dans le premier état chiite imamite de l'histoire, à l'aube de l'époque moderne. Donc je ne suggérerais que quelques pistes d'explication ou de compréhension. Il me semble d'abord y voir une volonté à l'intérieur de la spiritualité chiite de sublimer philosophiquement le dolorisme, la martyrologie et le messianisme originel. Pour qui connaît la doctrine chiite, le culte de la mort, de la douleur est tout à fait originel. Et là, on en a une forme de sublimation au sens, pour le coup, psychologique. Je supposerais également, dans le contexte propre à l'état safavide, dont ces penseurs étaient à des titres divers des fonctionnaires, une réaction spirituelle ou une résistance spirituelle et ésotérique à la quotidianisation, la sécularisation du chiisme imamite devenu religion officielle. En effet, quel mot d'ordre moins politique et moins pragmatique que celui de la mort volontaire ? En troisième lieu, le thème de la mort, comme réveil et renaissance, permet à nos penseurs de montrer et de faire entendre la symphonia, l'accord, l'harmonie des prophètes, des sages anciens, des imams et des soufis, et d'asseoir ainsi leur synthèse de la tradition imamite, de la philosophie et du soufisme sur un exemple concret. Enfin, l'insistance sur ce thème me semble marquer une volonté de rendre à la philosophie, connue comme discipline spéculative et science rationnelle, son sens de choix existentiel, de mode de formation ou de transformation de soi, voire d'autodéification. Le rappel de la mort comme réveil et renaissance témoigne ainsi du fait que pour ces penseurs iraniens et musulmans chiites, comme pour les Grecs de l'Antiquité, la philosophie n'était pas seulement une vision du monde, mais aussi et surtout une forme de vie et une forme de mort. Je vous remercie.